Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Nous avons la patate. Comment la pomme de terre a pu conquérir le monde? Ah, ces belles variétés de pommes de terre. Charlotte, Carole, Amandine, Belle de Fontenay, Juliette, Jeannette, Rosebelle, Roseval. Ah, beaucoup de prénoms féminins. Une histoire à la fois politique et sociale qui nous permet de se dilater la rate.
La pomme de terre occupe aujourd'hui dans notre ration alimentaire une place de tout premier ordre.
J'aime les pommes de terre. On ne parle pas assez des pommes de terre.
C'est blanc, farineux, dans le goût de la châtaigne.
On devrait avoir une pensée émue pour les pommes de terre.
Lundi, des patates, mardi, des patates, mercredi, des patates aussi.
Bonjour Jean-Pierre Houliot.
Bonjour Xavier Mauduit.
Tous les jours des patates?
Pratiquement tous les jours.
Vous êtes historien de l'alimentation, professeur d'histoire économique contemporaine à l'université Sorbonne, Sorbonne Université. Et dans cette histoire de l'alimentation, on peut le dire que dans la légitimité des champs d'études, l'histoire de l'alimentation a longtemps été mise de côté. Mais à l'intérieur même de cette histoire de l'alimentation de base, l'aliment premier, la pomme de terre, a lui-même été mis de côté.
Tout à fait. C'est une histoire, c'est un champ historique qui se développe en réalité depuis plusieurs décennies, mais qui a un rang un petit peu plus élevé aujourd'hui, avec un regard qui est plutôt porté vers l'histoire des gastronomies, l'histoire des cuisines, alors qu'en réalité, l'histoire de l'alimentation, c'est aussi une histoire économique et sociale. Et là, on retrouve tout l'intérêt d'étudier la chaîne alimentaire en partant des produits de base jusqu'à leur consommation.
Avec pour la pomme de terre une histoire très particulière puisqu'elle est datée précisément. L'arrivée de la pomme de terre en Europe, c'est à quel moment?
De fin du XVIe siècle, après on peut préciser les dates, mais la pomme de terre arrive par exemple aux Canaries en 1567. Pour autant qu'on puisse préciser à ce point-là. Donc l'Europe va connaître la pomme de terre avec des séquences successives de diffusion, des circulations. C'est très intéressant de réfléchir à ces circulations de produits. Mais elle était connue, la pomme de terre, bien auparavant, plusieurs milliers d'années auparavant, dans toute l'ère andine.
Avec une pomme de terre qui ressemble à celle que nous consommons aujourd'hui?
Pas complètement, parce que les conditions climatiques, les conditions de culture font que les pommes de terre qui étaient dans l'espace andin ne correspondaient pas aux variétés qui ont été adaptées progressivement en Europe. En réalité, ce qui est intéressant pour le cas de l'Europe, c'est de voir combien le nombre de variétés s'est développé. Le catalogue variétal s'est considérablement enrichi au fur et à mesure. Et on se rapproche de nos pommes de terre actuelles.
C'est-à-dire que l'arrivée de la pomme de terre en Europe correspond, dans l'histoire de cette espèce, de cette pomme de terre, une vraie prolifération de variétés très différentes. C'est un enrichissement génétique de la pomme de terre.
Absolument. Progressivement, les recherches, alors, pour une part liée aux travaux des botanistes, pour une part liée ensuite aux obtenteurs, mais beaucoup plus tard, plusieurs siècles plus tard, la pomme de terre décline des variétés qui sont une adaptation, dans un premier temps plutôt du côté du sol, pour obtenir des récoltes favorables, et puis dans un second temps, mais alors vraiment à partir du XXe siècle, avec des préconisations peut-être de choix variétaux qui correspondent à des qualités organoleptiques et éventuellement même culinaires. Telle pomme de terre pour tel usage.
C'est ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un tel pomme de terre pour devenir purée, pour devenir frite, pour être simplement cuite à la vapeur. Jean-Pierre Houliot, les premiers Européens à rencontrer la pomme de terre, la découvrent dans un monde tout autre. Cette pomme de terre-là, en Amérique, a-t-elle le même statut qu'elle a chez nous en Europe? C'est-à-dire que, on le voit bien, la pomme de terre, c'est l'aliment qui peut sauver la population parce qu'elle produit beaucoup, on peut nourrir tout le monde. Est-ce que c'était ça, la pomme de terre des Amériques?
Alors, la pomme de terre des Amériques, c'est un petit peu comme dans l'histoire du cacao, une sorte de vénération. Le mot est peut-être un peu fort, mais je pense qu'il est quand même assez approprié, de vénération à ce produit alimentaire issu du sol qui permet de nourrir, mais qui au fond permet la stabilité d'une population. C'est très étonnant de voir par exemple que dans la culture andine, il y a des poteries comme... Alors le nom ne laisse pas dire ce que c'est, on parle des poteries moch, parce qu'il s'agit d'une civilisation andine. Mais ces poteries qui ont des formes de pommes de terre attestent véritablement de l'importance de cet aliment dans l'espace andin. Donc il y a une connotation très connotation très symbolique.
Ouais, connotation symbolique, c'est une pomme de terre qui apparaît sous terre et qui dès lors peut faire peur.
Mettons-nous à la place de Charles de l'Écluse. C'est le premier naturaliste à avoir examiné la pomme de terre et avoir donné un avis scientifique. La seule chose possible pour lui, c'était d'essayer de comprendre cette chose inconnue à partir du connu. Et la seule plante à laquelle il pouvait la comparer, c'était la mandragore. C'est-à-dire qu'il l'a tout de suite classée dans la famille des solanacées. Du point de vue scientifique, c'est vraiment une très bonne réponse. Mais cette réponse est absolument catastrophique pour le statut alimentaire et pour l'avenir de la pomme de terre. Puisque la mandragore, tout le monde le sait, c'est la plante sent un petit peu le soufre, c'est la plante des sorcières, elle est connue pour ses propriétés hallucinogènes. Et alors, comparer la pomme de terre à la mandragore, c'est lui donner un statut alimentaire complètement redoutable. Est-ce qu'on pouvait manger de cette tubercule pendant très longtemps? On en a douté.
C'est l'historienne de l'alimentation, Madeleine Ferrière, qui s'exprimait à propos de la pomme de terre, en évoquant Charles de l'Écluse, parce que c'est une histoire très incarnée, hein, cette histoire de la pomme de terre. Charles de l'Écluse, botaniste, toute fin du XVIe siècle, tout début du XVIIe siècle. Jean-Pierre Houliot, ici, nous avons la peur de cette chose qui vient de dessous la terre. Mais c'est vrai, tubercule, pomme de terre, est-ce que les Européens mangeaient beaucoup de tubercules?
Alors en fait, relativement peu, sauf quand on se trouve dans une alimentation paysanne. Mais ce qui vient d'être évoqué est très intéressant du point de vue symbolique. Parce que le fait que la pomme de terre soit un tubercule, soit sous terre, donne aussi une connotation d'aliment qui est plutôt destiné aux animaux plutôt qu'aux humains. Il n'y a pas l'annoblissement que la viande peut laisser apparaître au XVIe ou au XVIIe siècle. Donc ce tubercule, c'est la racine. Manger des racines pour l'alimentation paysanne, ça entre dans le régime quotidien, mais ça n'est pas du tout anobli. Et ce qui est intéressant, c'est de constater combien les botanistes, on vient d'évoquer Charles de l'Écluse, combien des botanistes aussi comme les frères Bohun, par exemple, qui, par leur recherche à la toute fin du XVIe siècle, dénomment cette pomme de terre, le fameux Solanum tuberum, il y a dans leur approche une perception de l'intérêt de cette plante. On est dans une culture humaniste de découverte des plantes. Donc la pomme de terre, par le plan, peut être considérée avec un certain intérêt par les botanistes. Même entre jardins botaniques en Europe, on se fait circuler, on s'échange le plan. Et puis la considération de l'alimentation humaine, qui au contraire repousse la pomme de terre comme une alimentation plutôt destinée aux animaux.
Oui, parce que ce que vous dites là, c'est aussi une autre démarche pour l'analyse de la pomme de terre, c'est celle des botanistes. Comment ça fonctionne cette chose-là? Parce que il y a cet intérêt, les tubercules on connaît, on sait très bien, il y en a tant de tubercules, pas tous consommés, sauf en cas de problème, quand on n'a plus rien à manger, le tubercule c'est bien pratique. Il y a aussi cet intérêt pour la pomme de terre, qui passe avant même, j'ai l'impression, dans la chronologie, l'intérêt pour la consommation.
Ah oui, absolument. C'est exactement le schéma qu'il convient d'adopter. Parce que lorsque la pomme de terre arrive après toute la séquence des conquistadors en Amérique centrale et en Amérique du Sud, lorsque la pomme de terre arrive, elle arrive par les ports espagnols, par Séville notamment, et puis par l'Andalousie. Et elle pénètre d'abord en Espagne, avec un intérêt de curiosité pour la culture andine que l'on transfère progressivement vers l'Espagne. Et la curiosité devient une curiosité botaniste, une curiosité intellectuelle, et progressivement on cherche à développer ce plant, à l'échanger, à voir ce que l'on pourrait en faire. Donc plutôt destiné à une alimentation pauvre, Mais progressivement, c'est la connaissance scientifique et la circulation de cette connaissance scientifique et agronomique qui va permettre de développer l'implantation dans plusieurs endroits en Europe.
Donc une histoire sociale, parce que ces botanistes que nous évoquons là, c'est pas le bas peuple, c'est pas celui qui a besoin de manger la pomme de terre pour survivre. C'est une histoire sociale et une histoire de diffusion, vous le soulignez, Jean-Pierre Williot, avec énormément de justesse. Ça vient d'Amérique. Enfin, je veux dire, tout le monde n'en a pas, c'est quelque chose de rare, et quand quelqu'un arrive avec cette chose, cette pomme de terre, d'ailleurs on l'appelle comment? On l'appelle pas vraiment pomme de terre, on lui donne...
Selon les pays, on va plutôt décliner autour de batata, patata, hard apple aux Pays-Bas. Ce qui est là encore très intéressant du point de vue de la linguistique, c'est que on peut dessiner des itinéraires entre les pays qui la dénomment batata, patata, ceux qui l'appellent pomme de terre ou hard apple. Quand on entend patata ou batata, on entend aussi potato.
Oui.
Quand on entend kartoffeln, alors là on n'entend plus rien, sauf si on le rapproche de la kartoufle de l'Ardèche. Donc la kartoufle, c'est une pomme de terre ardéchoise qui a sa dénomination au XVIIe siècle. On parle de la kartoufle. Donc vous voyez, kartoufle, kartoffeln, batata, potato, pomme de terre, hard apple. Il y a des itinéraires géographiques. Donc c'est effectivement une histoire sociale, c'est une histoire de langue. Et derrière ce qui pourrait apparaître comme un sujet mineur, en réalité, la circulation de la pomme de terre nous restitue des migrations, des échanges et des échanges alimentaires qui ne se limitent pas des frontières.
Et oui, mais c'est bien ça. C'est dans cette histoire qui nous intéresse, celle de la pomme de terre, la conquête du monde. Cette conquête du monde passe par les savants et notamment Jean Bauhin.
Chez nous, dit Gaspard Bauhin, on cuit parfois simplement le tubercule sous la cendre et après l'avoir épluché, on le mange avec du poivre. Les uns le coupent en tranches cuites et nettoyées, versent de la sauce grasse au poivre et le mangent de façon à exciter le désir de Vénus et à améliorer la qualité du sperme. Les autres les utilisent, même s'ils sont sales, parce qu'ils les tiennent pour un bon aliment, qu'ils nourrissent autant que les châtaignes et les panais et parce qu'ils sont flatulents.
Historiae Plantarum Universalis, Jean Bauhin, nous sommes au milieu du XVIIe siècle, c'est une traduction de Paul Delsalle. Ici, avec cette évocation, Jean-Pierre Williot, on a, et on l'évoquait, ce milieu savant qui réfléchit, l'idée de considération physique de la pomme de terre, ce que cela provoque sur le corps humain. Et il faut rappeler cette histoire de l'alimentation, et vous en êtes un spécial, vous avez notamment avec Gilles Fumet écrit l'histoire de l'alimentation, le que sais-je. C'est aussi une histoire du corps. L'aliment, c'est la santé au XVIIe siècle, mais encore aujourd'hui.
Alors il y a de toute façon, pour tout produit alimentaire qui est introduit, souvent des attributs qu'on lui prête. Alors bien sûr des attributs nutritionnels, mais aussi des attributs dans la qualité de cette alimentation. Sur la possibilité d'avoir ce que l'on dénommera ensuite des calories ou une force physique, un bon entretien de sa condition physique par certains aliments. Donc les propriétés qui sont évoquées, elles entrent au fond d'abord dans une représentation parfois un peu mythifiée, ou que l'on ne maîtrise pas scientifiquement, et puis elles s'inscrivent aussi dans une réflexion médicale, puisque alimentation et médecine font bon ménage depuis Hippocrate, depuis les régimes qui au Moyen-Âge élaborent un certain nombre de paramètres sur le régime alimentaire. Donc la pomme de terre entre aussi dans ce corpus, alors non pas d'humeur froide ou d'humeur chaude, mais en tout cas de nutrition dont on va percevoir ensuite les effets. Et la perception des qualités nutritionnelles de la pomme de terre s'affirme véritablement au cours du 19e siècle, très clairement, même parfois de manière négative avec le manque de pommes de terre qui peut être gravissime.
Oui, parce que c'est bien cela, hein, cette histoire des pommes de terre, c'est l'histoire de l'évolution de la représentation sur la pomme de terre. Et là, quand on entend ce texte du milieu du XVIIe siècle, il y a l'idée que la pomme de terre pourrait être, non pas aphrodisiaque, mais favoriser le sperme. Pourquoi pas, ça va être plutôt le chocolat qui va être aphrodisiaque, lui. Donc, il faut prendre un chocolat et une pomme de terre. Mais ce que vous nous dites là, Jean-Pierre Houliot, c'est ce qu'on retrouve dans les expressions. Avoir la patate, avoir la frite, balancer la purée. Enfin, vous voyez, tout ce qui est lié à la pomme de terre, c'est positif.
Absolument. Il y a une... Alors, positif avec parfois un petit bémol, c'est que dans certaines discussions, lorsqu'on se repasse la patate chaude, oui, c'est pas forcément un cadeau pour son voisin.
Mais c'est vrai que cette pomme de terre-là, celle du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, est une pomme de terre qui doit être diffusée du point de vue des élites qui ont pris conscience de l'importance et de la facilité de culture. Parce que c'est peut-être ça qui est au cœur de toute cette réflexion. C'est, je ne sais pas s'il faut dire humaniste, mais la volonté de nourrir le peuple de manière la plus massive possible.
Alors, il y a effectivement cette volonté de trouver un moyen alimentaire pour parer aux crises de subsistance. Donc, la pomme de terre a l'avantage, d'une part, de pouvoir engendrer une production assez abondante. Elle a l'énorme avantage de pousser sous le sol. Et donc, en cas de guerre ou en cas de piétinement des champs, ben, elle reste quand même là où elle est logée, dans le sol. Et puis, il y a la perception, progressivement, de cette transformation possible de la pomme de terre. Au XVIIIe siècle, il y a des savants qui essayent d'imaginer la consommation de la pomme de terre sous une autre forme que celle que nous connaissons aujourd'hui. On évoque par exemple des pains à partir de farine de pomme de terre. Donc il y a vraiment l'idée que la pomme de terre, par un certain nombre de qualités, par le fait de pouvoir la planter finalement de manière assez accommodante avec les différents sols, il suffit de changer au besoin les variétés, la pomme de terre peut apporter une nourriture et une subsistance qu'une crise céréalière ne permet pas d'avoir de manière aussi régulière. Donc la pomme de terre devient non pas un substitut, mais en tout cas une solution parmi d'autres.
Et puis il faut rappeler qu'au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, le mildiou, cette terrible maladie qui ravage les pommes de terre, n'est pas encore aussi présent que ça a pu l'être par la suite au XIXe siècle avec des grandes famines.
Voilà, il y a des conditions climatiques qui peuvent être plus ou moins favorables. Et le mildiou engendre plus tard, au XIXe siècle, alors en effet une crise.
Alors, nous avons nos pommes de terre. Elles sont décrites par les botanistes, elles sont connues. Le procédé pour les planter, pour les cultiver est bien connu. Reste plus qu'à les diffuser.
Mes amis, je vous demande un peu de silence. Allô, allô, allô. Mes amis. Chauvel, le colporteur, ici présent, nous apporte du Hanovre un sac. Dans ce sac, il y a des pelures grises. Ouais, des pelures grises, vous entendez?
Les pelures grises.
Ça se mange, les pelures grises?
Tu vas comprendre, Père Bénédicte. Ces pelures grises produisent des racines excellentes et en si grand nombre que les gens du pays auront de quoi manger toute l'année. Je vous engage à les planter.
J'espère bien, Sainte Catherine, que vous sèmerez autre chose que des pelures du Hanovre. C'est à souhaiter. Car autrement, je risquerais de passer ici 100 fois sans charger ma bourrique. Oh, Dieu du ciel.
Essayez donc de faire du bien aux imbéciles. Voilà votre récompense.
Si j'avais un bout de champ, j'y planterais les pelures. Il verrait ma récolte et se dépêcherait de suivre mon exemple. Car je te le répète, cette plante rapporte 5 ou 6 fois plus que n'importe quel froment ou légume. Ses racines sont grosses comme le poing, excellentes à manger. C'est toujours bon.
Sois tranquille, Chauvel. Ils en veulent pas, tant mieux, j'en aurai seul. Au lieu d'ensemencer le quart de mon enclos, j'ensemencerai le clos tout entier.
Chauvel, c'est le nom d'un personnage de l'histoire d'un paysan. Histoire d'un paysan, roman de 1868 d'Ekman Chatrian, ça c'est la signature en fait, c'est Émile Ekman, Alexandre Chatrian, une adaptation radio diffusée de 1976 avec ces pelures qui arrivent de Hanovre. Jean-Pierre Houliot, c'est l'histoire de Parmentier, le célèbre Parmentier.
Alors c'est l'histoire de Parmentier, mais c'est aussi l'histoire de la circulation du plant de pommes de terre, où l'on voit bien des régions qui deviennent les pôles de développement de la pomme de terre. Donc la région du Hanovre, la Franche-Comté par exemple. Parmentier, vous l'évoquez à raison, parce que c'est en répondant à un concours de l'Académie de Besançon que Parmentier a suggéré un pain de pomme de terre. Donc il y a vraiment cette idée de trouver une nouvelle subsistance. Et dans les réticences que certains peuvent avoir à planter, il faudrait mettre en comparaison les volontés parfois politiques, comme celle de Frédéric II, et la volonté donc en Prusse de nourrir son armée ou son peuple à partir de plans que l'on décide de développer.
Mais c'est une histoire qui nous conduit dans les Pays-Bas, la Franche-Comté, Besançon, Hanovre, jusqu'en Prusse. C'est une histoire qui n'est pas méditerranéenne, on l'entend bien, qui n'est pas très littorale atlantique. C'est vraiment dans cette région-là, après un passage par Cadix, par là où est arrivée la pomme de terre, que se développe la pomme de terre. Est-ce que on peut tenter d'expliquer pourquoi il y a une telle prise dans ces régions-là de la pomme de terre? Est-ce que c'est parce que la culture y est favorable et donc on se met à planter des pommes de terre?
Alors, il y a à la fois la culture favorable qui répond bien au climat et aux conditions de sol de ces régions. Il y a les itinéraires de diffusion, puisque, en gros, on a un itinéraire qui passe par l'Espagne et puis qui remonte par l'intérieur de l'Europe et qui s'en va vers le nord. Et puis, on a un itinéraire qui est aussi l'itinéraire anglais. Donc, il y a de multiples itinéraires de diffusion de la pomme de terre. Mais les pays du Nord sont plus sensibles à cette production parce qu'elle permet de pallier le manque de froment, de céréales, que l'on peut obtenir peut-être plus assurément dans les pays méditerranéens. Donc ce sont presque des cultures culinaires qui se dessinent un peu, même si aujourd'hui la pomme de terre a droit de cité en Italie ou en Espagne, il n'en reste pas moins que c'est plutôt un aliment qui a sa destination septentrionale privilégiée.
Et Parmentier, le français, se trouve à Hanovre. Il est prisonnier d'ailleurs à Hanovre à ce moment-là. Il rencontre la pomme de terre, il décide de la diffuser en France. Alors, ici commence à s'écrire toute une histoire faite d'anecdotes. C'est pour ça que, quand je disais l'histoire de la pomme de terre est une histoire très documentée avec une chronologie précise, sans doute plus que bien d'autres fruits, légumes, tubercules et racines. Est-ce que toutes ces histoires sont vraies? Vous pouvez nous raconter d'ailleurs, Jean-Pierre Rouliot, cette histoire de Parmentier qui défend, enfin qui fait défendre un champ.
Alors, pas très loin d'ici, en fait, dans la plaine des Sablons à Neuilly, la bonne connexion, pour utiliser un terme contemporain, entre Parmentier et le roi, laisse l'initiative pour planter un champ, le faire garder en théorie la nuit. Alors, à partir de là, entre le fait construit par l'historien, le mythe, le récit, les anecdotes, les images d'Épinal, etc., se construit une autre histoire qui devient celle de Parmentier. Il faudrait tout mettre au conditionnel. Qui suggère qu'en faisant garder son champ la nuit, il suscitera la curiosité. Donc la curiosité suscitera l'intérêt. Donc l'intérêt engendrera probablement la facilité à planter la pomme de terre parce que l'on aura convaincu l'opinion. Donc, on est dans un cheminement entre l'anecdote, le récit mythifié, le récit légendaire, le récit pour les enfants, et puis une part de réalité qui est bien le jeu qui s'organise entre des pouvoirs politiques, des initiatives pour rechercher vraiment un substitut alimentaire à ce qui manque, et puis la diffusion de la pomme de terre qui, au bout d'un certain temps, finit par répondre réellement à un besoin.
Oui, parce que c'est bien cela aussi. Ce n'est pas parce que l'on tente de séduire les paysans en disant les pommes de terre vont régler beaucoup de vos problèmes, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, que les paysans vont se mettre à planter des pommes de terre. C'est que, de la part de ces paysans-là, avec un vrai savoir, une vraie connaissance, ils ne sont pas du tout naïfs, ils comprennent l'intérêt qu'ils ont à planter ces pommes de terre.
Voilà, à partir du moment où la récolte devient importante, à partir du moment où on consomme cette récolte, il y a une valeur marchande qui progressivement va devenir un centre d'intérêt.
Oui, puis surtout, faut quand même le rappeler, c'est pas difficile de planter des pommes de terre. C'est-à-dire qu'à partir d'une ou deux pommes de terre, très vite, on en a beaucoup.
Alors c'est un légume et un tubercule absolument extraordinaire parce que a priori planter une pomme de terre assure une récolte par plant, mais là aussi certaines conditions de préparation du sol, d'entretien, de choix de couper ou de ne pas couper les fans engendrent aussi des pratiques culturales qui vont évoluer.
C'est-à-dire selon le temps, évolution dans le temps, évolution selon les régions aussi, parce que c'est vrai que il faut rabattre la terre, il faut sarcler, il faut bien savoir faire. Est-ce que il faut couper les feuilles tout de suite, à quel moment pour conserver une bonne récolte et laisser les pommes de terre grossir?
Il y a une grande discussion qui court jusque dans les années 1860-1870 encore, alors que la pomme de terre est déjà là bien acclimatée, sur l'utilité du butage des pommes de terre. Alors, toute personne qui s'est promenée un jour à proximité de champs de pommes de terre a vu des petites mottes et des jolis sillons délimités par des petites mottes en continu. C'est le principe du butage qui permet de couvrir le plant de pommes de terre de manière à ce que son mûrissement se fasse correctement. Mais c'est un sujet, une pratique culturelle qui est discutée au milieu du 19e siècle. Il y a ceux qui font et ceux qui ne font pas. De la même manière pour l'amendement du sol, de la même manière pour garder les fans ou au contraire les couper, attendre que les fans pourrissent d'elles-mêmes. Il y a des pratiques qui se mettent en place progressivement et qui s'affinent vraiment d'un point de vue agronomique et scientifique à partir de la fin du 19e siècle.
Oui, parce qu'il faut rappeler que ces produits, tout type de produits alimentaires provoque des publications à n'en plus finir. Historien de l'alimentation que vous êtes, Jean-Pierre Ouilliot, vous bénéficiez comme source d'immenses traités de gens qui donnent leur expérience ou qui analysent. C'est vrai qu'il y a une littérature vraiment abondante sur ce sujet.
Et puis, tout à fait passionnante, parce qu'on voit bien là comment l'histoire de l'alimentation peut s'ancrer sur des sources extrêmement diversifiées, entre les images, entre les traités agronomiques, entre les récits de voyageurs aussi, entre bientôt les documents qui seront publiés ou fournis à travers les catalogues variétaux par une entreprise comme Villemorin. Il y a une diversité de sources pour faire cette histoire qui évidemment s'enrichit encore plus au XXe siècle et puis de nos jours, mais qui permet vraiment de travailler sur l'histoire de ces produits.
Et puis dès qu'il y a publication, il y a discussion, et de la discussion arrive le débat. Oui, monsieur Parmentier a mis en place l'agriculture de la pomme de terre en France, mais certains considèrent que ce n'est pas lui le premier.
J'ai su qu'un monsieur Parmentier sonne le tocsin à Paris pour se dire seul l'unique auteur de pain de pomme de terre, et cela, dit-il, parce qu'il fait du pain avec la pomme de terre sans farine. Cet homme m'a écrit annuellement depuis 10 ans pour me demander différents éclaircissements sur mes opérations. Cet homme me met donc dans la nécessité de le juger de mauvaise foi et de le regarder comme un intrigant qui veut s'approprier mon travail et surprendre le gouvernement pour en tirer quelque avantage. On sait combien j'ai travaillé à ce sujet et tout le zèle que j'y ai mis. Il le sait mieux qu'un autre, puisque je lui ai communiqué des détails particuliers dont il profite aujourd'hui.
C'est François-Georges Mustel qui dénonce le vol de ses idées. Nous étions en 1779, il écrit à l'intendant de Rouen, Jean-Pierre Ouilliot, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Parmentier, ce n'est pas lui qui a développé la pomme de terre en France?
Alors si l'on élimine Parmentier, on élimine la légende, on élimine les livres d'histoire de la fin du 19e siècle, on élimine la reproduction de cette initiative qui a réussi. Mais de fait, dans plusieurs régions en France, d'autres agronomes ont tenté l'expérience et se sont lancés. Alors, c'est vraiment les années 1760, 1770, 1780 qui sont les années cruciales, parce que l'on tente dans plusieurs endroits de France justement d'aller vers le même objectif, trouver une nouvelle ressource alimentaire.
Et oui, parce que c'est toujours cette question, et c'est en cela que c'est une véritable histoire politique avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour parler de la pomme de terre. Benoît Hubert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire moderne, associé à l'université du Mans Et dans ces études que nous avons autour de la pomme de terre, il y a les témoignages paysans. Nous parlons beaucoup de ces témoignages des botanistes, de ceux qui réfléchissent à la pomme de terre. Qu'est-ce que c'est? Comment la diffuser? Les paysans eux-mêmes ont-ils laissé beaucoup de témoignages sur les pommes de terre?
Alors, il y a au moins un paysan qui a laissé un témoignage, c'est le villageois du Maine, Louis Simon, qui a écrit sous l'Empire et qui raconte les nouveautés qui sont arrivées pendant sa vie en France, donc sous l'Ancien Régime. Et il raconte l'arrivée de la pomme de terre et il conclut en disant « Je ne dirai pas assez tout le bien que je pense de ce fruit, il parle d'un fruit, de ce fruit qui nous a sauvés de tant de situations. » Puisque, évidemment, les disettes qui menacent de famine les populations, mettent en danger la structure sociale des villages, des campagnes. Et ça va être, à partir au moins de 1770, puis une disette assez célèbre à ce moment-là, c'est à partir de 1770 que vraiment l'essor de la pomme de terre dans un certain nombre de provinces va prendre. On peut dire que jamais, sous le règne de Louis XV, le prix du blé n'avait été aussi important qu'en 1770. Et justement, l'opportunité de la pomme de terre est tout à fait importante à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelques années auparavant ont été créées les sociétés d'agriculture. Sous l'ordre de Louis XV, dans chaque généralité, on a créé une société royale d'agriculture qui doit développer et corriger les défauts de l'agriculture française. On essaye en quelque sorte de rattraper l'Angleterre qui a déjà commencé à accomplir sa révolution agricole. Ces sociétés d'agriculture, elles sont très inégales, de niveau très inégal, de composition assez inégale, et il y en a certaines parmi elles qui sont très d'avant-garde. Par exemple, on a un intendant comme Turgot. Avant d'être le grand ministre, il a été intendant et il a développé dans le Limousin la culture de la pomme de terre. Il y a d'autres initiatives, comme celle de Monseigneur de la Marche dans le Léon, en Bretagne, qui incite la culture de la pomme de terre. On l'a d'ailleurs baptisé l'évêque aux patates. Donc, dans beaucoup d'endroits, il y a des initiatives qui tournent autour des sociétés d'agriculture.
Et puis, il faut quand même rappeler, hein, Jean-Pierre Williot, ce que les gens mangeaient, c'est-à-dire qu'il fallait quelque chose qui tienne au corps, mais la base de tout, c'est le pain. Il n'y avait pas vraiment d'alternative au pain pour se nourrir, sachant que sous le mot pain, il y a beaucoup de choses différentes, hein. Ça dépend de quelle céréale est utilisée.
En fait, le cœur du régime alimentaire, jusqu'au milieu du 19e siècle, reste fondamentalement le pain et quelques ingrédients que l'on ajoute.
C'est tout. Il y a surtout du pain.
Et du pain, quelques pièces de viande de temps en temps, un peu de graisse dans les soupes, des légumes, des fruits d'occasion. Le régime alimentaire est quand même relativement pauvre, même s'il y a toute une cuisine paysanne qui progressivement s'élabore et dont on va bien percevoir l'existence au 19e siècle, avec aussi des haricots, des ragoûts, l'utilisation du porc de temps en temps. Ça reste une alimentation qui tourne quand même essentiellement autour du pain.
Et ce qui tient au corps, c'est vraiment le pain. Désormais, il y a la pomme de terre. Et là aussi, pour éviter les effets loupe, la pomme de terre, succès absolu. Il y a d'autres tentatives, les châtaignes, pourquoi pas. Il y a d'autres réflexions. C'est-à-dire que l'histoire de la pomme de terre s'inscrit dans une histoire beaucoup plus large de réflexion sur la manière de nourrir la population.
Exactement. Et le cas de la châtaigne illustre parfaitement, là aussi, dans le sud, par exemple, pour prendre le cas de la France, hein, il y a une alimentation à partir de ce fameux arbre à pain qui est le châtaignier. Donc les dénominations illustrent aussi cette évolution et puis cette sensibilité attestent d'autres recherches pour se nourrir avec les ressources locales en réalité.
Oui, c'est ça, c'est trouver quelque chose de local parce que on insiste beaucoup sur la diffusion de la pomme de terre, mais au sens diffusion de la culture, mais on pourrait mettre là-dessus la diffusion après des différents produits, mais nous sommes encore au 18e siècle. Nous n'avons pas le train et c'est difficile à transporter. Benoît Hubert, il y a ses souvenirs d'un villageois du Maine, Louis Simon, 1741-1820, publié aux presses universitaires de Rennes. Ah, 1741-1820, politiquement, il en a vu des choses, mais pas que politiquement. La pomme pommes de terre. C'est-à-dire que lui, il a connu ces moments très particuliers que sont les disettes. Faut réussir à attendre la récolte prochaine. Et puis, là, c'est encore autre chose, mais les petites famines ou les grandes famines.
Il a connu la disette de 1770. Et puis, il y en a eu d'autres, hein, sous le Directoire, sous l'Empire. Les choses étaient aussi très compliquées. Je parlais du cas du Maine, hein, petite province avec Le Mans comme capitale. Dont on parle pas beaucoup, mais qui mérite l'intérêt. Dans cette société d'agriculture, Société royale d'agriculture du Mans, de ce bureau d'agriculture du Mans, il y a des gens d'avant-garde, il y a des gens progressistes. Il y a l'influence du marquis de Turbilly, qui est président de la Société d'agriculture de Paris. Il y a Véron du Verger, qui est le père de Véron de Forbonnais, le célèbre ministre des Finances, en quelque sorte, de Louis XV. Et tous ces gens-là sont en connexion avec, finalement, les chercheurs en agronomie, et sur leur terre du Maine, appliquent les recettes qui sont données dans la Gazette d'agriculture la plupart du temps. Et donc, dans les campagnes, on va retrouver la mise en œuvre de ce qui est préconisé dans la Gazette d'agriculture. Et on va assister à des choses assez étonnantes. Les seigneurs, les curés, tous se mettent ensemble pour presque forcer la main aux paysans pour les inciter à pratiquer la culture de la pomme de terre. Par exemple, à côté de Sablé-sur-Sarthe, il y a un château qui s'appelle le château d'Aubert, dans lequel vit M. Bastard de Fontenay. Et lui, il réunit ses paysans dans une espèce, on dirait aujourd'hui, de comice agricole avant la lettre, et il leur propose de découper les pommes de terre en rouelles, de les passer au four, d'en faire de la farine, et il leur explique comment on peut réhydrater par la suite cette farine de pommes de terre pour justement en faire du pain. Et le pain, comme on venait de le dire, les paysans sont écrasés par ce primat céréalier, qui correspond évidemment à l'usage du pain. Et ils n'ont pas le réflexe de se dire « mais la pomme de terre pourrait être consommée pour elle-même ». C'est rare que l'on voit ça. On voit arriver tout un tas de recettes où on dit qu'on peut utiliser 25 à 30% de pâte de pomme de terre qu'on ajoute avec du froment pour faire un pain qui ressemble à du pain. Parce qu'on trompe presque un petit peu les gens.
Ouais, on fait une économie de farine, de froment.
On fait une économie de farine, c'est ça qui fait baisser le prix du pain. Mais au fond, on trompe les gens à dessein. Parce qu'on sait que si on leur propose le tubercule tout seul, ben les gens ne vont pas le consommer. Il y a les a priori qu'on a évoqués dans l'émission qui sont encore très pesants.
Et puis, faut savoir de quelle pomme de terre nous parlons. Parce que cette pomme de terre du XVIIIe siècle n'est peut-être pas encore celle que nous connaissons aujourd'hui. Jean-Pierre Houliot, vous l'avez dit, hein, énormément de variétés, de plus en plus de pommes de terre, de la sélection. Donc on cherche de la pomme de terre un peu goûtue. Cette pomme de terre-là est-elle peut-être fade au XVIIIe siècle?
Alors en fait, c'est très intéressant ce que l'on vient d'évoquer sur la dimension un peu velléitaire de l'implantation de la pomme de terre à travers les différentes propositions locales qui sont faites. Les variétés qui existent au début sont relativement limitées. Dans les années que l'on vient d'évoquer, milieu du XVIIIe siècle, il y a à peu près 7, 8 variétés qui sont connues. En revanche, et c'est bien là le basculement qui est intéressant à observer, dans la première partie du XIXe siècle, lorsque le plan pomme de terre, qui aurait été de faire un pain à partir de la farine de pomme de terre, finalement va échouer, et que la consommation de la pomme de terre brute va devenir le support alimentaire recherché, le nombre de variétés va véritablement exploser. Dans les catalogues variétaux, au milieu du 19e siècle, en 1846, dans le catalogue Villemorin, il y a en gros 170 variétés. Quand on se place à la fin du 19e siècle, dans les années 1880, on est passé à plus de 600 variétés. Donc c'est un enrichissement permanent et la nature des pommes de terre va évoluer effectivement avec des critères gustatifs différents, des critères de durabilité, de conservation, jusqu'à raffiner plus tard le choix de la pomme de terre en fonction de son degré de maturité. La pomme de terre primeur, la pomme de terre nouvelle, la pomme de terre de conservation, il y a toute une déclinaison qui va apparaître.
Oui, parce que le mot de conservation a été évoqué, et ça aussi, hein, Benoît Hubert, on peut rappeler combien l'idée de conservation des aliments est très très importante. Justement, quand l'hiver arrive, ben, faut tenir jusqu'à la récolte prochaine, jusqu'au printemps prochain, et la pomme de terre, ça se conserve.
La pomme de terre se conserve assez facilement par le procédé de déshydratation dont on a parlé. En quelque sorte, ils inventent la purée de pommes de terre en flocons avant la lettre. Et c'est quelque chose d'assez étonnant. Tout le monde n'adhère pas, hein. C'est très compliqué. Il faut vraiment, mais répéter, convaincre les paysans pour les faire sortir de leurs habitudes.
Mais ça se comprend. Parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est. C'est difficile de casser ces habitudes dont on a hérité de ses parents, de ses grands-parents. En tout cas, c'est la saga de la pomme de terre frite en purée ou en vapeur.
Ah, c'était bon. Je m'en suis pour lécher les babines.
Vous n'êtes pas difficile.
J'aime les pommes de terre. On ne parle pas assez des pommes de terre. Tous les jours, on devrait avoir une pensée émue pour les pommes de terre. Ce sont elles qui nous nourrissent. Nous leur devons tout.
Vous ne pourriez pas parler d'autre chose.
Et pourquoi parlerais-je d'autre chose? C'est du solide, la pomme de terre. On peut toucher. Ça existe. Ça s'épluche, ça se lave, ça se laisse cuire. Ça se mange en purée, en salade, en rondelles.
La poche parmentier, un texte de Georges Perec, présenté pour la première fois en 1974. Ici, c'est une adaptation de 1985. C'est formidable, la pomme de terre. Mais la pomme de terre, Benoît Hubert, vous nous le dites bien, c'est pas facile pour faire accepter cela aux paysans. Ce qui est tout à fait normal, c'est pas qu'ils comprennent pas l'utilité de la pomme de terre. C'est que même ceux qui portent cette idée-là, ne les cultivent pas. Ce sont les élites, c'est pas eux qui vont à la terre. C'est souvenir d'un villageois du Maine, par exemple. Ce Louis Simon, 1741-1820. À quel moment voit-il la pomme de terre se diffuser, que ses collègues ou lui-même se mettent à planter des pommes de terre comme une évidence?
Alors, ils le font à partir du milieu du XVIIIe siècle, et la production commence à augmenter à partir de la disette de 1770. On est dans un domaine au sud du Maine, dans une région très pauvre, avec des sols caillouteux, sableux, et on ne peut faire comme céréales que du sarrasin. Et donc, dès qu'un guéret, la place sur un guéret se libère, ou dans un jardin, on cultive de la pomme de terre. D'abord pour les animaux, bien entendu, dès le milieu du XVIIIe siècle, et puis par nécessité, parce qu'il n'y a plus rien d'autre à manger, parce qu'il n'y a plus de réserve. Pendant 3 années au moins, de 1770 à 1773, on mange les pommes de terre. Déjà, un certain Varenne de Béost avait publié un livre qui expliquait comment justement on pouvait agréger de la pomme de terre avec du froment pour faire du pain. Ça, on l'a expliqué, c'est la panification. Mais il explique aussi comment on peut construire l'appareil qui va permettre de faire la pâte de pomme de terre. Et on a l'ancêtre du moulin à purée.
Le presse-purée,
il est là. Presse-purée existe déjà dès à peine 1770. Donc, tous ces gens-là, je pense, s'équipent, font comme ils peuvent, font leurs pâtes de pommes de terre, mais ils ne peuvent pas. Ils restent quand même sur leur faim, parce que la pomme de terre a un goût d'une fadeur indépassable, absolument indépassable. C'est pas bon du tout. Et en plus, les élites conseillent d'y mettre des sauces ou du poivre, du sel. Mais le problème, c'est qu'en campagne, le sel, c'est très cher, c'est la gabelle. Le beurre et la crème, ben, ce sont des choses qu'on va vendre sur les marchés pour se faire du numéraire. Et donc, la seule consommation possible à cette époque-là dans les campagnes, c'est essentiellement soit la pomme de terre cuite à l'eau, soit la pomme de terre dans la braise, cuite dans la braise.
Ah oui, là, ça a du goût. Mais par la cendre qui donne un petit peu de goût, la braise, un peu de goût à la pomme de terre. Avec cette alimentation pour les animaux, juste on peut préciser, c'est surtout les cochons qui mangent les pommes
les
de terre.
Les cochons et les vaches.
Hein, les vaches aussi mangent les pommes de terre.
Oui.
Et les paysans se mettent à en manger quand il n'y a plus rien. Mais le fait de cette consommation au moment de la disette, conduit à ce que la pomme de terre entre dans les habitudes alimentaires.
Elle entre dans les habitudes alimentaires. Dans le nord du Maine, il y a une femme, ça c'est quand même intéressant de le noter, Madame de Montesson. Madame de Montesson écrit au bureau d'agriculture du Mans en 1771, quand commence la disette, et elle écrit qu'elle souhaite être associée et membre correspondant de la Société d'agriculture du Mans, parce que, étant enfant, fille du gouverneur de Saint-Domingue, elle a vu, avec sa maman, en se promenant dans les exploitations, elle a vu les esclaves s'occuper de la pomme de terre et la cultiver, et qu'elle est prête à aller l'expliquer aux paysans de son canton. C'est absolument formidable, parce que on va lui claquer la porte au nez, on va lui dire qu'évidemment il n'est pas question d'avoir une femme dans ces enceintes de messieurs très convenables, et par contre, elle va diffuser cette pomme de terre, et elle dit bien la variété américaine, et on est en 1771. Et comme on le disait finalement, dans les années 1770, il y a 4, 5, 6, 7 espèces de pommes de terre, de variétés de pommes de terre, encore en France, c'est le chiffre que donne Fernand Braudel.
Et après, ça explose parce que, Jean-Pierre Houillot, vous nous le disiez, ça se compte en centaines après au XIXe siècle, avec ce moment particulier de la Révolution française, et on pourrait ajouter de l'épisode napoléonien, moment de guerre. Donc on sait combien, pendant les périodes de guerre, les structures sont complètement modifiées, les structures agraires, la culture ne se fait pas de la même manière, les hommes sont parfois partis au combat, et puis le commerce fonctionne moins bien. Est-ce que c'est une période qui est favorable à la pomme de terre ?
Alors c'est une période qui va devenir, un peu par la force des choses, favorable à la pomme de terre, dans le même esprit que le sucre qui auparavant était tiré de la canne, du fait des guerres napoléoniennes et du fait du blocus continental, engendre toute une réflexion parmi les savants de la République pour trouver des substituts. Et le sucre de canne va laisser la place pendant un certain temps au sucre de betterave. Donc la pomme de terre s'inscrit aussi dans cette période où les ressources nécessaires doivent être mobilisées, et son développement, la multiplication des variétés et l'intérêt gustatif que l'on va y trouver finalement permet son développement. C'est intéressant de noter que le goût est en réalité très contextuel. C'est-à-dire que l'on s'étonne de la fadeur de la pomme de terre, mais en réalité, c'est parce que les goûts auxquels les contemporains sont habitués ne s'associent pas à cette perception. Donc c'est l'évolution des goûts aussi qui va permettre de favoriser l'implantation de la pomme de terre.
C'est-à-dire que les goûts se portaient sur des choses beaucoup plus fortes, beaucoup plus goûtues, et que la pomme de terre paraissait fade, et que nos goûts se sont, disons, affinés ou un petit peu assoupis, et que la pomme de terre nous paraît moins fade.
Alors aussi parce qu'elle est anoblie d'un point de vue culinaire avec des préparations. Une fois que l'on abandonne l'idée du pain de pomme de terre, la cuisine des pommes de terre se diversifie avec le nombre de recettes qui progressivement s'élargit.
Peut-on dire un mot des armées ? Dans ces périodes de la Révolution française et de l'épisode napoléonien, il y a beaucoup de personnes qui partent au combat, et c'est vrai que la pomme de terre pour nourrir les troupes, c'est peut être pratique. Est-ce que ça peut aussi permettre de comprendre la diffusion de la pomme de terre ?
Alors, je pense que de toute façon, la diffusion de la pomme de terre, elle a d'abord commencé par la marine. C'est-à-dire que la pomme de terre, très bon remède contre le scorbut, embarqué sur les navires, a engendré que dans l'espace maritime, les plants de pommes de terre soient diffusés, ce qui explique d'ailleurs que on retrouve la pomme de terre en Asie, du côté de Taïwan, au tout début du XVIIe, ou qu'on la retrouve à Java à la fin du XVIIIe siècle. Donc les marins sont aussi porteurs de cette diffusion de la pomme de terre. Après, les armées ont besoin forcément d'une nourriture et de subsistance sur place. Tout le commissariat aux subsistances et les intendants de l'époque napoléonienne doivent veiller au ravitaillement des armées. Donc la pomme de terre devient aussi portée par ces armées.
Le lien entre la pomme de terre et la force militaire, un exemple à la fin du XIXe siècle.
Au moment où l'on va se mettre à planter ou à semer les pommes de terre, je voudrais vous dire deux mots d'un inventeur qui a réussi, il y a quelques années, à en obtenir jusqu'à 100 000 kilos à l'hectare. Je répète, 100 000 kilos, car le chiffre est évidemment invraisemblable, et c'est pourtant la vérité. Il s'agit de l'ingénieur Serrant Belnou, aujourd'hui disparu. Il avait découvert, au cours de l'autre guerre, un explosif 10 fois plus puissant et 30 fois moins cher que la mélinite. Mais l'État n'ayant pas accepté son invention, découragé, Serrant Belnou, qui se faisait déjà vieux, était retourné, comme on dit, à la terre, dans la grande banlieue parisienne. Il s'intéressa à la patate, et l'idée lui vint tout de suite que la terre devait être très aérée pour foisonner. C'est peut-être une vérité de la palisse. Mais notre homme lui donna de l'originalité en effectuant son labour à plus d'un mètre de profondeur partout où le sol le lui permit. Il se servit pour cela, évidemment, de l'explosif que le gouvernement avait refusé. À petite charge, il vous retourna les champs comme des crêpes. Ainsi cultiva-t-il pendant plusieurs années des champs de pommes de terre rapportant de 96 000 à 100 000 kilos à l'hectare. Alors que les champs de ses voisins à 25 mètres de distance, traités par la routine, ne donnaient que de 5 à 6 000 kilos. Cet homme, qui était un sage, donnait ce conseil à ses voisins. « Tu veux essayer, toi ?» demanda le maire à un de ses voisins. « Mais je ne suis pas fou, » répondit le voisin. « Tel fut mon succès, ou plutôt ma déconfiture. »
Ah bah oui, alors là, utiliser l'explosif pour les pommes de terre, Émile Pierre Serrant, belle nous, 100 000 kilos de pommes de terre à l'hectare, nouveau système de culture à grand rendement, c'est publié au début du XXe siècle. Benoît Hubert, cette histoire de la pomme de terre, c'est une histoire, et on le voit bien, qui est multiple, on l'a dit, histoire sociale, des élites, des botanistes, qui se diffusent auprès des paysans, mais qui eux-mêmes développent leur propre savoir, et c'est eux qui apprennent à construire ce qu'il faut faire pour avoir le plus de pommes de terre possible.
Alors, avec la révolution agricole, évidemment, on a tous les engrais chimiques qui vont apparaître et qui vont permettre d'obtenir des quantités bien supérieures au rendement qu'on avait jusqu'au début du 19e siècle. Donc, les quantités explosent, on l'a dit, les variétés se multiplient, leur goût s'affine. Et dans la mémoire paysanne, parce que c'est aussi quand même très important, dans la mémoire paysanne, je peux faire état de souvenirs familiaux du père, du grand-père, qui pendant la guerre de 14 et la guerre de 39 se sont mobilisés. Ils s'en souviennent parce qu'ils ont raté l'école. Alors c'était formidable pour eux parce que il y avait les invasions de Doryfort, et ces invasions de Doryfort, elles ont marqué évidemment beaucoup les mémoires, et les paysans envoyaient les enfants et les femmes pour enlever le Doryfort un par un des champs de culture.
Illustration de vos propos.
Du nord au sud, de l'est à l'ouest, d'originaux concours sont organisés dans chaque village. Les enfants en vacances se prêtent joyeusement à la protection des pommes de terre. La bouteille en main, c'est à qui récoltera le plus grand nombre de doryphores adultes. Mais on ne prélève pas seulement les adultes. Les œufs que nous voyons ici considérablement grossis et les larves font par ailleurs l'objet de traitements chimiques. Le travail acheté, chacun reçoit sa récompense, tandis que la récolte de la journée disparaît en fumée.
Les actualités françaises en 1942, donc archives de propagande, bien entendu, le ramassage des doryphores avec une mise en abîme intéressante, sachant que les doryphores, c'est le surnom donné aux soldats allemands, comme quoi ramasser les doryphores, c'était aussi un peu un acte de résistance. Jean-Pierre Ouilliot, en fait, on a cette longue histoire de la pomme de terre qui, longtemps, surgit comme le secours ultime en moment de crise. Et on le voit bien, c'est cette histoire qu'on a dit sociale, histoire économique, bien sûr, histoire des représentations. C'est rassurant, la pomme de terre.
Oui, et puis l'évocation qui vient d'être faite renvoie, y compris par le souvenir que notre collègue vient d'évoquer, renvoie à la situation de la pomme de terre dans les temps de guerre ou dans les temps difficiles. Si l'on prend, par exemple, des affiches qui, durant la Première Guerre mondiale, incitent les paysans, à partir d'un slogan « Semer des pommes de terre », pour justement garantir l'approvisionnement de la nation, on est bien dans une représentation qui est d'un secours important. Et ça peut ensuite se traduire aussi après la guerre. Lorsque le premier congrès de la pomme de terre est organisé à Limoges, alors c'est un lointain écho à ce que l'on évoquait à propos de Turgot et du Limousin, le premier congrès de la pomme de terre est organisé par des compagnies de chemin de fer qui ont des stations agronomiques. Et en 1924, lorsque ce congrès est tenu, l'objectif, c'est de développer la production de pommes de terre pour pouvoir ensuite faire du trafic ferroviaire et donc des wagons complets qui vont aller d'une région productrice à une région consommatrice. Et on est bien dans la même logique, c'est-à-dire développer des capacités agronomiques, toute une réflexion culturelle pour faire de la pomme de terre le support d'une nourriture d'un trafic, d'un commerce, d'un marché qui ne va cesser de s'amplifier.
Et puis la pomme de terre ne fonctionne pas seule. Benoît Hubert, pour terminer, il faut le dire que l'histoire de la pomme de terre, c'est l'histoire d'un monde agricole dans son ensemble où désormais on peut y mettre du beurre parce que le beurre est plus facile d'accès, et de la crème, et pourquoi pas de la muscade.
C'est certain qu'on va pouvoir passer maintenant à la phase de la gastronomie, à la phase du goût, après la phase de la survie. On peut juste évoquer l'apparition d'aliments emblématiques. Par exemple, le hachis parmentier. Le hachis parmentier, début du produit de brasserie parisien qui apparaît au début du XXe siècle. La frite même. Je sais pas, la frite, finalement, la pomme de terre à l'huile, on connaissait. Mais la découper en forme de frite, c'est quand même quelque chose de tout à fait nouveau qui apparaît au XIXe siècle. On pourrait multiplier comme ça les exemples. Et puis, pour terminer, on a parlé de la difficulté sur terre et sous terre pour la pomme de terre de s'affirmer. Mais en 1995, la NASA a réussi à faire pousser des plants de pommes de terre dans la station spatiale Columbia.
C'est l'aboutissement de cette diffusion qui a ouvert l'émission sur l'histoire de la pomme de terre. Merci beaucoup à vous deux, à Benoît Hubert, ces souvenirs d'un villageois du Maine, entre autres. Et puis, avec vos ouvrages, on a tout de l'identité provinciale. Évidemment, c'est le Maine et c'est autour du Mans. Et merci Jean-Pierre Williot. Et je rappelle cette histoire de l'alimentation, la saga de la pomme de terre. On mangeait des pommes de terre dans les trains ?
On mangeait forcément des pommes de terre dans les trains.
Et bien voilà, il y a vos mobilités alimentaires, restauration et consommation dans l'espace des chemins de fer. En France, c'est passionnant, mais la passion pour nous continue avec Gérard Noiriel, le pourquoi du comment.
Pourquoi peut-on dire que l'assassinat de Henri IV a contribué au succès de l'absolutisme en France ? L'effroi causé par l'assassinat du roi Henri IV, le 14 mai 1610, a été minutieusement décrit dans son journal par le chroniqueur Pierre de l'Étoile. On vit, en un instant, la face de Paris toute changée. Les boutiques se ferment, chacun crie, pleure et se lamente, grands et petits, jeunes et vieux. Les femmes et les filles s'en prennent aux cheveux. Toute la fureur du peuple contre l'attente et intention des méchants n'est tournée que contre ce parricide scélérat et ses complices pour en avoir et poursuivre la vengeance. Pierre de l'Étoile donne ici une description de l'émotion publique que suscitent des crimes de ce genre. Elle ressemble à celle que nous éprouvons aujourd'hui face aux attentats terroristes. Sauf que ce sont les médias qui orchestrent désormais l'expression de l'émotion collective. Un autre point commun que l'on peut déceler entre cette époque et la nôtre, c'est qu'il n'y a jamais d'unanimité pour dénoncer la barbarie des criminels. En 1610, dès le lendemain du drame, des individus se réjouirent publiquement de la mort d'Henri IV. Un homme applaudit le geste de Ravaillac, au motif que le roi méritoit bien ce qui est arrivé. Un autre se serait écrié « Voilà un beau coup, je l'attends droit ». La fille d'une lavandière fut arrêtée à Paris pour s'être vantée tout haut de tuer avec un couteau qu'elle avoit le roi et la reine. Les quelques informations relatives à l'identité des prévenus montrent qu'il s'agissait en majorité d'hommes ou de femmes de basse extraction, des travailleurs manuels gagnant leur vie comme tisserands, teinturiers, maçons, charretiers, auxquels il faut ajouter quelques soldats et des vagabonds. Nous avons là une illustration d'un phénomène que l'on retrouve dans notre société actuelle. Celles et ceux qui s'estiment rejetés ou délaissés par le monde dans lequel ils vivent s'emparent de l'actualité pour tenter d'exprimer leur révolte en tenant des propos que l'immense majorité des citoyens ne peut que condamner. C'est ce qui explique un autre point important dans l'histoire des actes terroristes. De tels crimes, bien qu'ils soient exceptionnels, poussent le pouvoir d'État à intensifier la répression en prenant des mesures drastiques pour tenter d'éradiquer la menace. Après l'assassinat de Henri IV, la recherche des complices, des commanditaires, des admirateurs, voire des imitateurs potentiels du geste de Ravaillac s'est poursuivie pendant de longs mois. Celles et ceux qui n'étaient coupables que de propos séditieux furent arrêtés et 5 d'entre eux furent condamnés à la pendaison. Ces condamnations à mort furent réduites en appel à des peines corporelles. Néanmoins, cette sévérité du pouvoir royal à l'égard des propos séditieux illustre l'une des principales conséquences politiques de l'assassinat de Henri IV. Comme l'a noté l'historien Roland Mousnier, Ravaillac a aidé probablement contre l'intention de son auteur au succès de l'absolutisme en France. On touche là au dernier point commun entre le passé et le présent. Les actes terroristes aboutissent le plus souvent à des résultats politiques en tout point opposés à ce que leurs auteurs espéraient.
Merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau et Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Élise Leu, émission préparée par Jeanne Delecroix, Antoskian Vudès, Tom Undenstock, Jeanne Copper, Raphaël Laloum et Mayou Nguizhou. Émission à écouter à podcaster sur franceculture.fr et l'appli Radio France.